veux vous inviter à tourner les pages de vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 21. Nous allons lire du verset 28 au verset 31. Et puis, nous tournerons la même Bible dans Jérémie chapitre 35 et nous lirons du verset 13 au verset 16. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. Que vous semble-t-il? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel de ces deux a fait la volonté du Père? Jérémie, chapitre 35, à partir du verset 13, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Est-ce que vous ne recevez pas les instructions pour obéir à Dieu? Dit l'Éternel. Verset 14. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé de le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Verset 16. Oui, le fils de Jonadab, fils de Rekab, observe l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Je vais te dire merci, Père très saint, et je vais consacrer ce temps que nous allons passer à l'étude de ta parole entre tes mains. Plaise à toi, que ton esprit nous conduise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dimanche passé, nous avons étudié la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 10e chapitre, du 1er au 10e verset. L'ancien janvier nous a identifié, nous a indiqué quatre choses que nous devrions éviter si nous voulons être en paix avec notre Dieu. Premièrement, il nous a dit que nous devrions éviter l'idolâtrie sous toutes ses formes. Éviter l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et deuxième chose, il nous a indiqué que nous devrions éviter la débauche, l'immoralité sous toutes ses formes. Donc, si nous voulons un jour voir la face de notre Dieu, nous avons la responsabilité d'éviter l'immoralité, d'éviter la débauche sous toutes ses formes. Et la troisième chose, il nous a conseillé d'éviter la provocation et surtout d'éviter de provoquer Dieu. Je veux même étendre cela, d'éviter même de provoquer votre voisin, d'éviter de provoquer, c'est-à-dire de garder la paix, parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver au bout de la provocation, surtout si vous vous amusez à provoquer Dieu. Et la quatrième et la dernière chose que nous devons éviter si nous voulons demeurer en paix avec notre Dieu, ce serait d'éviter les murmures sous toutes les formes. Éviter les murmures. Et lorsque vous allez lire dans le texte des Corinthiens, vous allez vous inspirer de ce qui est arrivé aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert de Sinaï. Ce dimanche, le message que nous allons étudier ensemble a pour titre restons sur le chemin de l'obéissance. Est-ce que nous pouvons nous tous dire ensemble, restons sur le chemin de l'obéissance? Est-ce que nous pouvons le dire avec beaucoup plus de conviction? Restons sur le chemin de l'obéissance. Oui, Dieu veut que nous puissions rester sur le chemin de l'obéissance. Et donc, continuer à marcher dans l'obéissance. Et j'aurais vraiment, vraiment besoin de votre attention. Mon souci ce matin à travers ce message est de vous encourager à obéir à votre Dieu. C'est-à-dire nous encourager à obéir à la parole de Dieu, à obéir aux ordonnances de Dieu et à étendre cette obéissance dans tous les domaines de notre vie. Pour la simple raison que dans chaque chapitre de notre vie, il y a une ordonnance de Dieu qui nous montre comment nous devons réglementer cette vie. Par exemple, dans notre vie personnelle, il y a une ordonnance de Dieu qui nous indique ce que nous devons faire pour bien vivre. Dans notre vie conjugale, dans la vie de couple, vous trouverez encore une ordonnance de Dieu qui est appropriée à la vie de couple, mais qui n'a rien à voir avec le célibataire. Dans la vie de célibataire, il y a aussi une ordonnance de Dieu qui vise à régler la vie du célibataire. Dans la vie en société, dans la vie à l'église comme nous sommes ici, dans la vie au travail, même à l'école, bref, dans tous les chapitres de notre vie, il y a des indications de Dieu qui réglementent notre façon de vivre pour que nous puissions lui plaire. Et obéir à Dieu, c'est obéir à tout ce qu'il nous dit dans les différents domaines de notre vie. Et encore une fois, j'aimerais vous encourager à prendre le temps de mesurer vous-même votre niveau d'obéissance à Dieu et de vous ajuster si vous trouvez que le niveau est trop bas. Dans la parabole que nous venons de lire, le maître nous dit qu'un homme avait deux fils. Il s'adressa d'abord au premier fils et il lui dit, « Mon grand, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » La Bible nous dit que le jeune a répondu à son père, « Je ne veux pas. » En d'autres termes, « Ça ne me tente pas. » C'est que certainement ce jeune avait une raison qui l'a poussé à dire à son père, « Ça ne me tente pas de faire ce que tu me demandes. » Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être même qu'il avait un rendez-vous avec des amis et il voulait aller chiller au centre-ville de Montréal. Peut-être même qu'il avait, bref, il avait une raison qui était sa raison. La Bible dit qu'après, c'est-à-dire lorsque le père s'est retiré, ce jeune homme a pris le temps de réfléchir sur la scène qui venait de se passer. Il a pris le temps de passer tout en revue et il a réalisé que j'ai tapé à côté. Ce n'est pas de cette façon que je devrais répondre à mon père. Après avoir fait lui-même un examen de conscience, il n'a pas été jugé par quelqu'un d'autre. Lui-même s'est jugé. Il a dit, non, je n'aurais pas dû répondre ainsi à mon père. La Bible dit qu'il s'est repenti. Et il est allé travailler au champ. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, frères et sœurs, que dans la vie, il peut bien nous arriver de nous tromper. Il peut bien nous arriver de donner une réponse épidermique à notre frère, à notre sœur. Il peut nous arriver de poser un geste qui n'est pas approprié. Mais lorsque cette scène passe, il est important que nous puissions nous arrêter. Important, important, important. Il est important que nous puissions nous arrêter pour revenir sur ce que nous venons de faire, pour revenir sur ce que nous venons de poser comme geste, Pour revenir sur ce que nous venons d'adresser comme parole à notre mari, à notre épouse, à notre enfant, à notre prochain, revenir nous-mêmes. Essayez de réfléchir pour voir à quel niveau ce que je dis ou la décision que j'ai prise obéit ou non à la volonté de Dieu, nous-mêmes. Et lorsque nous allons découvrir que ce que nous avons dit déplaît à Dieu, il est alors possible pour nous de réparer. Regardez ce que ce garçon a fait. Il a certes mal répondu à son père. Mais lorsqu'il s'est séparé avec son père, il a pris le temps. Frère, sœur, je vous encourage à vous arrêter un peu. Nous ne pouvons pas rouler comme une locomotive sans frein. Nous devons à un moment donné faire une pause. Regarder en arrière. Regarder comment est-ce que j'ai conduit ma vie dans tel domaine. Comment est-ce que j'ai conduit ma vie en rapport avec tel frère. Nous ne devons pas nous rendre aveugles nous-mêmes ou fermer les yeux pour ne pas voir l'évidence. Nous n'allons pas faire la politique de l'Autriche. On raconte que l'Autriche dans le désert, lorsque vous le poursuivez, il court. Et lorsqu'il se fatigue, il se plie sur lui-même et il met sa tête sous les ailes. Et c'est clair, lorsqu'il met la tête sous les ailes, il ne peut rien voir. Et parce qu'il ne peut rien voir, il s'imagine que personne non plus ne peut le voir. Et le chasseur vient, il le prend. Parfois, il nous arrive, nous chrétiens, à faire ça. Lorsque je posais un geste qui n'est pas approprié, je garde silence. M'imaginant que tout le monde va garder silence et ça va passer comme ça. Non, ça, ce n'est pas réparer les choses à la source. Ce garçon, la Bible dit qu'après avoir réfléchi, il s'est repenti. La repentance, c'est le sentiment profond de l'âme qui pose un jugement sur elle-même et décide de changer de décision. La repentance, l'âme pose un jugement sur elle-même, pas sur quelqu'un d'autre. Elle évalue les choses, elle pèse le pour et le contre. Elle regarde ce qui a été fait de bien et ce qui a été fait de mal, et elle prend une décision. Et j'aimerais vous encourager ce matin fortement. Je vous dis que c'est vrai, il arrivera un jour où vous allez mal répondre à votre ami, mal répondre à votre mari, à votre époux, à votre épouse, à votre enfant, à votre frère, à quelqu'un au travail. Ça peut arriver à cause de la nature adamique qui est encore collée à vous. Mais la nature de Dieu va vous permettre, le Saint-Esprit va vous permettre de vous arrêter, d'évaluer ce que vous avez fait et de réaliser que c'était mauvais. Et quand c'était mauvais, vous allez réparer et ainsi vous garderez la paix avec votre frère, avec votre sœur, avec votre père, avec votre mère, et par voie de conséquence, vous garderez la paix avec votre Dieu. Le maître poursuit dans cette histoire, ou dans cette parabole, et dit que cet homme s'est ensuite adressé au deuxième fils, et il lui a dit la même chose. C'est-à-dire, il a dit aussi au deuxième fils, « Mon grand, aujourd'hui c'est toi qui vas travailler dans ma vie. » Et le deuxième fils a répondu avec empressement, « Je le vais bien, mon père, je vais aller. Ne vous en faites pas, petit problème, je vais m'en aller. » Et le père était content, il est parti. Mais lorsqu'ils se sont séparés, le fils n'est jamais allé au champ. Peut-être qu'il est allé au lit pour dormir toute la journée, ou peut-être qu'il est allé jouer au Nintendo avec ses amis. Mais le problème d'aller travailler dans la ville, c'était un problème mis à la poubelle. Et le maître termine le récit avec une question. Qui de ces deux enfants a fait la volonté de son père? Ici, l'expression « faire la volonté du père » signifie tout simplement « obéir ». Donc, qui de ces deux enfants a obéi à son père? Vous pouvez vous-même répondre. J'aimerais fixer dans votre esprit deux petites choses ce matin. La première chose que j'aimerais que vous puissiez bien retenir ce matin est que nous devons obéir à Dieu parce qu'il est notre Père. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, nous tous, nous devons obéir à Dieu parce qu'il est notre Père?
Nous devons obéir à Dieu parce
C'est encore un ordre. Nous devons obéir à Dieu parce qu'il est notre Père. Dans Jérémie 35 que nous avons lu, le Seigneur soumet le prophète Jérémie à un exercice qui peut nous surprendre aujourd'hui. Dieu dit à Jérémie ceci: invite les fils de Jonadab, les Récabites qui sont à Jérusalem. Invite-les au temple. Et là, sers-leur du vin. C'est tout ce que Dieu a dit à Jérémie. Et Jérémie a invité les Récabites. Il doit avoir bien préparé les tables, il a préparé bien la salle pour les accueillir. Et lorsque les Récabites sont arrivés, il a sorti les calices, il a sorti les coupes, et il a servi du vin aux Récabites. Jérémie est surpris. Tous les Récabites lui disent non. Nous ne pouvons pas boire du vin. Jérémie se demande, mais Dieu m'a dit d'inviter ces gens et de leur offrir du vin. Comment se fait-il que j'observe l'ordre de Dieu et ces gens refusent de boire du vin? Et il leur a donné posé la question, pourquoi vous ne buvez pas le vin? Alors les Rékabites vont lui dire, nous ne buvons pas du vin parce que notre père Jonadab, fils de Rakab, nous a ordonné de ne jamais boire du vin, nous, nos fils et toute notre descendance. Et donc, nous ne buvons pas votre vin par obéissance pour notre Père.
Amen.
Nous ne buvons pas votre vin parce que notre Père nous a recommandé de ne pas boire le vin. Alors, nous obéissons aux recommandations de notre Père.
Amen.
Est-ce que quelqu'un m'entend?
Amen.
Il est ici question du père biologique, du père charnel. Et Dieu dit à Jérémie, il pose la question à Jérémie, demande à Jérémie de demander aux enfants d'Israël, est-ce que vous là, on ne vous a jamais instruit, on ne vous a jamais dit qu'il faut obéir à votre Dieu? Est-ce que vous, tel que vous êtes là, il n'y a aucun prédicateur qui vous a enseigné que, mon frère, ma soeur, vous avez la responsabilité d'obéir à Dieu? Est-ce que vous, les juifs, comme vous êtes là, aucun prophète ne vous a jamais dit que vous devez obéir à Dieu? Mais pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? À la différence de ces Récabites qui, pendant des générations, Jonadab n'est plus en vie, Jonadab est déjà mort, mais sa descendance continue à refuser de boire le vin parce qu'il obéit à l'ordre donné par le Père qui n'existe pas. Ce que Dieu veut nous enseigner ici, c'est quoi? C'est que si les Récabites ont été capables d'obéir aux ordres de leur Père, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons la responsabilité d'obéir aux ordres de notre Père qui est Dieu lui-même. C'est ça ce que Dieu voulait communiquer à son peuple. Et c'est ça ce que Dieu veut vous communiquer ce matin, mon frère, ma soeur. De vous inspirer de l'exemple des Récabites et de changer votre conduite envers votre propre Père. J'ai un exemple que je vous ai toujours donné, ce n'est pas la première fois. C'est l'exemple du cidre de Corneille. Pierre Corneille, c'était un écrivain bien connu du XVIIe siècle. Il a publié une pièce de théâtre, et dans cette pièce de théâtre, il met en scène plusieurs personnages, dont quatre personnages principaux. Parmi ces quatre personnages principaux, nous avons Don Diego, nous avons Don Gomez, nous avons Don Rodrigue. Rodrigue est le fils de Don Diego. Et nous avons Chimène. Chimène qui est le fils de Don Gomez. La fille de Don Gomez. Rodrigue et Chimène s'aiment follement et ont un projet de se marier dans peu de jours. Et leurs parents sont d'accord avec ce projet. Voilà que le jour où Don Diego, le papa de Rodrigue, prévoit aller se présenter dans la famille de Chimène, le roi va nommer Don Diego précepteur de son fils, le prince de Castille. Or, le papa de Chimène enviait aussi ce poste-là. Et le papa de Chimène était jeune par rapport au vieux Don Diego. À cause du fait que Don Diego a été nommé et lui a été rejeté, cela a engendré la jalousie dans le cœur de Don Gomez. Et la jalousie a conduit à la colère. Il s'est fâché. Et la colère a conduit aux chicanes. Ils se sont injuriés. Et au cours de ces chicanes, le jeune a décidé de gifler le vieux. Le vieux étant vieux, il n'était pas capable de se défendre. Il va alors parler à son fils Rodrigue. Il dit, venge-moi. Mais écoutez-moi, frère. Rodrigue doit le venger contre qui? Contre son futur beau-père. Le papa de la femme qui l'adore et qui l'aime. Chimène était belle et elle était aimée par d'autres personnes. Et il faut que Rodrigue prenne la décision, soit d'obéir à son père ou d'obéir à son amour. Difficile, n'est-ce pas? Mais dans le cas d'espèce, Rodrigue a sacrifié son amour et il a obéi à son père. Quelle leçon ça peut nous donner? Parce qu'il a considéré qu'obéir à mon père, c'est un honneur. Obéir au père, non? C'est un honneur. Et même lorsque vous obéissez à Dieu, c'est un honneur. Vous l'honorez juste par votre obéissance. Quand Dieu dit, mon fils, viens, tu viens. Même lorsque le père dit, fils, viens, tu y arrives. Fils, donne-moi un verre d'eau. Parfois, c'est seulement juste pour te dire qu'il t'aime, il veut te voir. Parfois, certains ordres, c'est pour signaler votre présence. Dieu veut voir si tu es encore présent. Dieu a besoin que tu puisses l'honorer. Et Rodrigue a honoré son père. Il est allé en duel contre son futur beau-père et il l'a descendu. Écoutez-moi bien, Église. Il est très important que nous puissions comprendre, en tant qu'enfants du royaume, que Dieu veut nous voir obéir à son commandement. Il veut nous voir obéir à sa parole en notre qualité d'enfant du royaume parce qu'il est notre Père. Amen. La Bible dit que c'est Dieu-là, il aime l'obéissance plus que le sacrifice. Donc, la première chose que nous devons apprendre en devenant chrétien, c'est d'abord l'obéissance à Dieu. Nous devons apprendre à obéir à Dieu avant même d'apprendre à prier.
Amen.
Nous devons apprendre à obéir à Dieu avant même d'apprendre à prêcher, avant même de chercher à chanter, avant même de chercher à délivrer quelqu'un, avant même de chercher à servir dans n'importe quel domaine à l'église. La toute première chose que nous devons faire, nous devons d'abord apprendre à obéir à Dieu.
Amen.
Pourquoi? Parce que c'est l'obéissance à Dieu qui est la clé de notre communion avec lui. C'est que si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez pas demeurer en communion avec lui. C'est le problème qui est arrivé à Adam et Ève. La Bible dit que lorsque Dieu les a créés, ils vivaient dans une parfaite communion avec ce Dieu. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu eux-mêmes, ils ont pris le chemin de la brousse pour se cacher. Et les choses sont encore ainsi jusqu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. À l'instar des Récabites, Dieu veut nous voir obéir à sa parole. Dieu veut nous voir obéir à son commandement. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Lorsque vous lisez la Bible, vous avez des textes qui sont normatifs. Et ces textes normatifs sont différents des textes historiques, des textes poétiques ou même des textes explicatifs. Si vous ne faites pas un effort pour établir cette différence, vous risquez de vous mettre à obéir à ce qui n'est pas recommandé par Dieu et à désobéir à ce qui est recommandé par Dieu. Un texte normatif, c'est un texte qui nous donne un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, des ordres clairs qui doivent réglementer notre vie. Et dans la plupart des cas, c'est soit exprimé à l'impératif ou exprimé par une autre forme grammaticale, mais qui cache le sens impératif. Exemple, Dieu dit « ne volez pas ». Nous avons affaire ici à un texte clair, « ne volez pas », un texte normatif. Et lorsque la Bible dit « ne volez pas », en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas voler. Dieu dit dans notre maison, eh bien, aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre. Nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous n'avez jamais, les uns les autres, est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous n'avez jamais entendu dire que aime ton prochain comme toi-même? Vous n'avez jamais entendu dire que ne soyez pas impudique? Vous n'avez jamais entendu dire ne mentez pas? Vous n'avez jamais entendu dire que respectez vos responsables?
Oui.
C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas?
Oui.
Puisque parfois les gens sont en train de s'amuser avec les choses de Dieu. Mais ici, il n'est pas question de s'amuser avec les choses de Dieu, il est question d'obéir à ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ces ordres? C'est ça la question que Dieu nous pose ce matin. Par contre, lorsque vous lisez un texte explicatif, il vous explique tout simplement ce que vous devez faire. Si c'est un texte historique, il vous raconte ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, ce qui a eu lieu dans le passé. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ça, c'est de l'histoire. Si vous ne comprenez pas que c'est de l'histoire, vous risquez de vous réveiller le matin, vous avez un enfant, vous dites que non, lui s'appelle Isaac. Parce que c'est ce que la Bible dit. Et moi, j'ai changé mon nom, je suis Abraham. C'est écrit. C'est difficile parfois de déloger de telles pensées dans la tête de quelqu'un. Dieu ne vous a pas donné une recommandation que lorsque vous vous convertissez, changez votre nom. Non! Non! Le nom est lié à la culture. Et Dieu sait qu'il m'a placé dans cette culture-là. J'ai mon nom, je m'appelle Badibanga. Ce n'est pas que quand je me convertis, j'abandonne le nom de Badibanga ou j'ajoute Abdoulaye Badibanga. Non, mais ce n'est pas ça. Hein? Je ne suis pas Abdoulaye Badibanga, je ne suis pas Isaac Badibanga, je suis Badibanga, c'est ça mon nom. Il n'y a pas une ordonnance de Dieu qui dit changer de nom, ça n'existe pas. Et nous devons apprendre à comprendre les textes comme les textes sont. Il y a un texte qui me fait rire, qui m'a fait rire sérieusement. Lorsque je méditais sur cette parole dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, je pense verset 5, où l'homme de Dieu est en train de décrire ici la beauté de la femme. C'est un texte poétique. Il décrit qu'elle a le cou comme une pointe d'ivoire. Alors je tombe sur un jeune homme qui va dire, mais frère, pourquoi tu es célibataire pendant autant d'années? Oh papa, je suis en train de chercher encore une femme, je ne l'ai pas encore trouvée. Quelle est la femme que tu cherches? Non, 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 il faut que je trouve une femme avec un cou comme une pointe d'ivoire. C'est ce que la Bible dit. Mais frère, la Bible a bien écrit, le cou est comme une pointe d'ivoire. Mais la Bible ne vous a pas donné un ordre que lorsque vous allez épouser, cherchez une femme qui a un cou comme une pointe d'ivoire. Vous allez chercher pendant longtemps et vous allez mourir sans jamais trouver la femme avec le cou semblable à une pointe d'ivoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On peut donner une déclamation à notre Dieu. Ça, ça peut partir de la compréhension des Écritures. Donc, de la différence entre les textes normatifs avec les textes historiques ou les textes poétiques. Oh, tu es belle! Tes cheveux comme, sont comme un troupeau de chèvres. Un troupeau de chèvres, c'est fini. Là, vous dites, je commence à chercher ma blonde. Dès que vous la voyez, vous regardez, est-ce que les cheveux sont comme le troupeau de chèvres? Non. Comme les cheveux ne sont pas comme le troupeau de chèvres, vous fermez les yeux et vous passez. Mais celle que vous allez voir avec les cheveux comme le troupeau de chèvres, elle est déjà occupée. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, ça fait partir de la compréhension de la parole, frère. Je voudrais vous ramener à une chose. C'est juste savoir comprendre ce qui est dit. Savoir établir la différence entre ce qui est ordonné, ce qui est impératif et ce qui est raconté tout simplement. Jésus a marché sur l'eau. Ça, c'est de l'histoire. Il a marché sur l'eau, c'est bien. Est-ce que quelque part il a dit, vous aussi marchez sur l'eau? Il ne l'a pas dit. Deux jeunes gens chez David Yonchou, un groupe de jeunes gens, ils allaient à la réunion de prière. Ils ont trouvé que le petit fleuve, le petit ruisseau qu'ils traversaient était complètement inondé. Et ils tenaient à tout prix à assister à la réunion de prière. Pas de bateau, pas de pirogue. Ils se tiennent entre les mains, ils se disent, mais écoutez, Jésus a marché sur l'eau, non? Alors, fermons les yeux, prions et lançons-nous, nous allons traverser, nous allons à la réunion de prière. Ils ont fermé les yeux, ils ont prié, ils ont dit amen, ils se sont tous lancés là-bas et ils ont coulé. Pourquoi? C'est parce qu'on a confondu ce qui est ordre et ce qui est histoire. Ce qui est raconté pour édifier notre foi. Amen. Mais lorsque nous voulons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, toutes les fois que nous lisons les Écritures, nous devons faire attention à ce qui est recommandé, à ce qui est ordonné, à ce qui est impératif. Afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie et manifester ainsi l'obéissance à notre Dieu comme le fils de Récab. Comme le fils de Récab. Et nous devons obéir à Dieu, peu importe les conditions dans lesquelles nous vivons. Notre obéissance ne doit pas être une obéissance à temps partiel ou une obéissance au conditionnel. C'est-à-dire quoi, une obéissance au conditionnel? Lorsque je suis riche, j'obéis à Dieu. Là, je peux venir à l'église, je donne une grosse dîme, je chante, « Oh, Dieu m'a béni », etc. Dans peu de jours, il y a une crash boursière, je perds ma richesse. Et dès que je perds ma richesse, mon obéissance aussi disparaît. Ça, c'est une obéissance conditionnelle. C'est que l'obéissance n'a jamais existé. Et inversement, il y a des gens, quand il est pauvre, il obéit à Dieu. Il est pauvre, il peut aller même à pied. Faire même 5-10 km à pied pour aller prier. Il peut même traverser la ville pour aller consoler un frère, une soeur qui est éprouvée. Mais lorsque Dieu le bénit, il a une voiture, je suis occupé. Frère, je suis occupé. Frère, je suis occupé. Et même plus loin, on lui ajoute un mensonge. La Bible dit que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. C'est un ordre. Si aujourd'hui, il y a un péché qui ronge les églises, c'est le mensonge, frère. Même les pasteurs vous mentent comme vous n'avez pas l'idée. Il n'a jamais guéri quelqu'un. Il dit que non. Quand j'étais là-bas, j'ai ordonné les morts sans ressusciter. Il y a le pasteur qui m'avait raconté l'histoire d'un pasteur, je vous en ai déjà raconté, qui prêchait même au milieu de la prédication, il arrête. Il donne le témoignage. Il dit qu'il y a quelques jours, je suis allé à la morgue pour prier pour une fille de mon église qui était morte. Pendant que je marchais vers celle qui était morte, tous les cadavres se réveillaient et tous les cadavres suivaient. Écoutez-moi, frère. C'est un pasteur qui donne ça lors d'une prédication dans un grand séminaire, mais à l'étranger. Ils sont à l'étranger. Ils font confiance à un homme de Dieu. Et ils considèrent qu'il dit vrai. Et pourtant, l'homme de Dieu sait qu'il est en train de mentir. Qu'il n'y a aucun mort qui s'est réveillé. Vous voyez, frère, la Bible dit que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Et si vous ne parlez pas la vérité à votre prochain, c'est que vous mentez. Essayez un peu d'équilibrer. Même quand vous passez toute la journée, chez avec qui vous avez parlé, est-ce que j'ai dit la vérité? Juste ça, tout simplement. Un frère peut vous parler, il vous dit la vérité. Vous dites que, pasteur James, hier, je t'attendais, tu m'avais fixé rendez-vous pour me voir hier, tu n'es pas venu, j'étais vraiment déçu, j'étais fâché. Même si le frère te le dit fâché, accommode-le. Dis, c'est ma faute, frère. J'aurais pu vous appeler pour vous signaler, mais mon enfant était malade, excuse-moi. Mais cette affaire est terminée.
Oui.
Mais non. Pourquoi tu peux me parler comme ça? Non, le problème, ce n'est pas que pourquoi tu veux me parler comme ça. Le problème, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien fait. Tu dis que non, pourquoi tu veux me parler comme ça? Et tu pars, tu disparais. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Hé, écoutez, frère. La Bible dit, parlez-vous selon la vérité. Amen. Frère, si je te dis la vérité, j'ai péché.
Non.
Mais il faut que je te dise la vérité pour t'aider.
Amen.
Je ne peux pas venir t'acclamer quand tu fais une bêtise. Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi, Église. S'il n'y a pas de rigueur spirituelle, Amen. Nous ne verrons jamais le bord du ciel.
Amen.
Et si nous sommes frères et sœurs, peu importe qui vous êtes, un baoba, un militaire, qui que ce soit, le petit enfant a droit de te dire la vérité. Que mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là n'est pas bon. Change-le. Et si tu changes, tu vas avoir la vie. Mais si on te dit la vérité, toi tu boudes. Tu n'es pas obéissant à Dieu. Et si tu pars, ou même tu vas à côté, tu vas crier. Tu y es parti, mais tu n'as pas corrigé le problème, frère. Nous sommes les enfants du royaume. Et tu n'as pas boudé ce frère-là. Rappelle-toi plutôt ce que la parole dit. La parole dit que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. C'est que ton problème n'est pas avec ce jeune homme qui t'a parlé. Ton problème est avec Dieu. Parce que tu n'as pas fait ce que le fils de Récab, ce que le fils de Jonadab avait fait. Frères, sœurs, nous sommes église, nous devons changer. Nous sommes les enfants des lumières, nous devons nous dire la vérité. La vérité, la vérité, c'est ça ce qui va nous aider. Et lorsque les ministres de Dieu sont établis, vous êtes établi pour dire la vérité au peuple de Dieu.
Amen.
Ce n'est pas que je veux vous caresser, vous avez mal fait. Non, 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 non. La Bible dit dans Jean, puisque nous parlons de ça, c'est l'obéissance qui va nous conduire à la maturité spirituelle. Hein? C'est ça ce qui va nous permettre d'identifier que tel chrétien est mature ou tel autre n'est pas mature. Ce n'est pas le fait de rester dans l'église pendant 25 ans qui vous confère la maturité. Ce n'est même pas non plus le fait d'avoir bloqué toute la Bible par cœur qui vous confère la maturité. Non, la maturité vous est conférée par le coefficient de votre obéissance à Dieu. Jésus-Christ dit ceci à ses disciples dans Jean chapitre 4 qui lui demande de manger. Il dit que j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle est cette nourriture? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté de celui qui m'a accompagné et qui m'a envoyé. Faire la volonté de quelqu'un, c'est obéir à quelqu'un. Donc, en d'autres termes, ma nourriture est d'obéir à Dieu. Or, vous mangez chaque jour ici, sauf quand vous êtes en jeûne. Ça, c'est pour vous dire que vous devez chaque jour, à chaque instant, obéir à votre Dieu. L'obéissance, frère, doit faire partie de notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Même si 1000 personnes, j'aime bien le texte de la Bible qui dit que vous ne suivrez pas la multitude pour faire le mal. Même si toute notre génération ici est en train de s'écarter de l'obéissance et c'est en train de refuser d'obéir à notre Dieu, nous, nous devons faire la différence. Nous restons sur le chemin de l'obéissance. La deuxième chose, avant de terminer, que j'aimerais fixer dans votre esprit, c'est que nous devons obéir à Dieu afin de nous garantir notre victoire sur le diable. Nous vivons au milieu d'une génération qui aime beaucoup la délivrance, qui aime beaucoup le combat, c'est bien. Mais il y a un secret ici, que nous devons d'abord obéir à Dieu, et ensuite nous aurons la victoire sur le diable. Regardez l'exemple de fils de Séva, Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible dit de ces jeunes qu'ils étaient des exorcistes professionnels, ambulants. C'est-à-dire, leur job était de se réveiller le matin, d'aller à Montréal-Nord, regarder les gens qui sont possédés, ils font des incantations et ces gens-là sont délivrés. C'était ça, ils passent d'une ville à l'autre, des exorcistes ambulants. Mais ces gens ont observé ce que Paul faisait. Paul parlait tout simplement, il dit, au nom de Jésus-Christ, les démons s'enfuyaient. Paul n'avait pas besoin de faire des gris-gris, de sauter, des cris, non, au nom de Jésus, les démons partaient. Alors, le prochain candidat qu'ils ont rencontré sur leur chemin, au lieu d'utiliser les recettes qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, ils décident ce jour-là de changer des recettes et d'emprunter la recette de Paul. Alors, ils disent aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, quittez. Le démon leur dit ceci, les amis, je connais Paul et je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, déclinez votre identité. Il fallait qu'ils commencent eux-mêmes à décliner. Non, 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 non. Moi, je suis Kilundu. Non. Oh, moi, je suis Pâtre. Oh, moi, je suis Joe. Ils n'ont même pas eu le temps de décliner leur identité. Le type a fait un saut. Il les a corrigés au point qu'ils sont partis de là nus et blessé et ridiculé. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas fait quelque chose qui recommande la Bible. Dans Jacques, la Bible dit ceci. 1. Soumettez-vous à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. 1. Soumettez-vous à Dieu. 2. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La condition pour que le diable prenne fuite, la condition pour que le diable vous respecte est donnée en termes clairs ici. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Donc, 1. Obéissez à Dieu. Et si vous obéissez à Dieu, alors le diable va vous respecter. Mais si vous, vous n'obéissez pas à Dieu, le diable le sait. Il sait qui obéit à Dieu et qui n'obéit pas. C'est ainsi que ce diable a regardé le fils et l'a vu que ces gaillards n'obéissent pas à Dieu. Comment ils peuvent invoquer ces dieux pour me chasser? Et le diable connaît bien les principes. Il sait que quand Dieu a dit « Soumettez-vous à moi » et après chasser le diable, et dès que la première condition n'a pas été réalisée, c'est que ces gens ne seront pas avec Dieu. Et comme ils ne sont pas avec Dieu, je vais les corriger. Même chose encore aujourd'hui, frère. Il y a beaucoup de gens qui se font corriger chaque jour par le diable, justement parce qu'ils prennent le risque d'aller chasser le diable, alors qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Frère, sœur, vous vous êtes en train de mentir. Au nom de quoi vous pouvez délivrer quelqu'un? Ou au nom de quoi vous pouvez chasser le démon? Le mensonge est devenu tel que, ah, papa, nous sommes là, je suis avec vous. Je suis avec... Il y a des gens qui mentent, frère. Vous avez déjà commencé à fréquenter une autre église. Vous avez déjà commencé à quitter la foi. On vous appelle par amour. Dites non, non, frère, soeur, par amour, j'ai pris telle décision, je suis telle part. Non, 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 pasteur, je vais venir, nous sommes là, nous sommes là. Mais c'est un mensonge, frère, parce que vous mentez. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Parce que vous mentez, n'allez pas chasser le démon, c'est vous attirer le malheur. Hé, écoutez-moi, église, je vous dis la vérité, frère.
Amen.
La façon de voir les choses de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas la façon de voir les choses des hommes.
Amen.
Dieu reste toujours derrière sa parole.
Amen.
Dieu ne négocie pas avec sa parole.
Amen.
Quand il a dit, parle à ton prochain selon la vérité, dès que tu essayes de modeler la vérité, ou dès que tu essayes de donner une réponse diplomatique pour le calmer, le deuxième fils a donné une réponse diplomatique. Mon fils va travailler au champ. Oh, papa, petit problème. Je vais m'en aller tout de suite. Mais dans la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti. Il y a nombreux qui sont en train de donner des réponses diplomatiques aujourd'hui. Et la réponse diplomatique, c'est la désobéissance par rapport à Dieu. Et avec cette désobéissance, vous ne vous rendrez pas maître de vos ennemis, frères. Voilà pourquoi vous pouvez être en train de prier, mais vous voyez toujours les situations devenir dures, devenir chaotiques. Vous vous dites que je prie chaque jour et les choses ne changent pas. Non, arrêtez-vous un peu. Posez un jugement et comprenez que vous devez d'abord rentrer à la case de départ et à vous soumettre. Je répète pour terminer que s'il y était une leçon à enseigner à l'église chaque jour, c'était la leçon de l'obéissance à Dieu. Parce que tout le problème de l'homme avec Dieu à travers l'histoire, c'est un problème d'obéissance. Le problème d'Adam et Ève avec Dieu, c'est un problème d'obéissance. Le problème d'Abraham quand il a manqué la présence de Dieu pendant 13 ans, c'était un problème d'obéissance. Le problème de la génération de Lot, un problème d'obéissance. Le problème de la génération de Noé, un problème d'obéissance. Le problème de David, à travers toute la Bible, même jusqu'à nous aujourd'hui, le grand problème que nous avons avec Dieu, c'est le problème d'obéissance. Alors, je vais vous encourager, frères et sœurs, à faire la différence, à obéir à Dieu, parce que Dieu est vrai, Dieu existe et Dieu est notre salut. Mais pour garder notre communion avec lui, nous devons marcher dans l'obéissance. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons terminer. Nous allons terminer. Merci.